Alors, je commence cette prédication par une affirmation. Nous aspirons tous à une vie transformée, n'est-ce pas? Et même si je vais demander qui est-ce qui a envie de voir une vie transformée, je crois que plusieurs, non? N'est-ce pas? Et vous connaissez sans doute cette caricature, justement, qui... Quand le prédicateur, donc c'est une caricature, hein, mais peut-être que c'est aussi une réalité, c'est le prédicateur qui demande qui est-ce qui veut avoir une vie changée. Et puis tout le monde lève le doigt. Et puis le prédicateur qui dit, mais qui maintenant a envie de changer? Et puis personne ne lève plus le doigt puisque ça implique beaucoup de choses. Mais nous aspirons à une transformation de notre vie personnelle, de notre nation, de notre société, n'est-ce pas? Nous prions pour cela. Nous prions pour cela, si on parle de Madagascar, il y a des personnes qui ont prié pour une transformation de notre nation depuis longtemps. Et beaucoup de personnes continuent encore à ce qu'une transformation réelle s'opère dans notre nation. Et ce matin, je vais partager avec vous l'histoire d'une ville entière qui a été transformée. Et pour cela, je vous invite d'abord à prier, et ensuite nous allons faire la lecture d'un passage de la Bible. Prions. Dieu, notre Père, nous voulons te louer et t'honorer par ta présence dans nos vies, en ce moment, mais aussi dans ta présence dans notre nation, dans notre famille, dans la société. Tu es le Dieu vivant qui est là, qui agit, qui parle, qui nous touche, qui s'approche de nous et qui a aussi dans ton cœur que nous puissions te connaître, que nous puissions vivre une vie fructueuse à la gloire de ton nom. Mais nous avons besoin de ton aide. Éclaire-nous par ta parole pour que nous puissions saisir, comprendre et vivre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Et nous faisons cette prière dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc je vous invite alors à ouvrir votre Bible, même si le passage, je crois que le passage est affiché. Il y a le texte qui est là, c'est pas là, c'est pas grave. Donc on va lire 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 19. 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 19. Voilà, donc nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Les hommes de la ville de Jéricho, donc, dirent à Élisée, « Le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise, et dans le pays, c'est la stérilité. » Il dit, « Apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Ils le lui apportèrent. Il sortit vers la source de l'eau, y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini cette eau. » Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. L'eau fut assainie jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je voudrais partager avec vous l'histoire d'une ville qui a été transformée, la ville de Jéricho. La ville de Jéricho, c'est une ville qui est située à 10 km de la mer Morte. Et pour mieux comprendre la transformation qui s'est opérée dans cette ville, il faut d'abord que nous comprenions sa situation avant que ce miracle ait lieu. Alors, depuis la conquête de la terre promise, c'est-à-dire 5 siècles plus tôt, Jéricho était placée sous la malédiction prononcée par Josué. Nous lisons cela dans Josué chapitre 6, verset 26. Josué chapitre 6 verset 26 qui dit ceci: en ce temps-là, Josué fit faire ce serment: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en assurera les fondations au prix de son fils aîné, au prix de son cadet, il en posera les portes. Voilà, donc c'est Josué qui a prononcé cette parole, cette malédiction sur cette ville de Jéricho. On ignore la vraie raison pour laquelle Josué a prononcé cette malédiction, mais nous pouvons l'associer au péché des Cananéens. En effet, la conquête de la terre promise représente la bénédiction des Israélites, mais aussi un jugement pour les nations païennes qui habitaient dans le pays. En laissant Jéricho en ruine, Josué voulait probablement rappeler aux enfants d'Israël que Dieu juge et condamne toute iniquité. Et du temps du roi Akab, un certain Yel de Bethel s'est aventuré à reconstruire la ville de Jéricho, et la malédiction prononcée par Josué s'est littéralement réalisée. Effectivement, les deux fils de Yel étaient morts au prix de sa désobéissance. Et on trouve cette histoire dans 1 roi, chapitre 16, verset 34. Et à partir de là, Jéricho était habité, pour plus exactement un peu plus avant, mais la malédiction restait attachée à la ville et sa source d'eau était extrêmement polluée. Et à travers ce récit, nous allons voir deux leçons. Voilà. Donc on sort un peu du schéma habituel où je présente trois points. Donc on va voir deux leçons. Et premièrement, pour avoir le changement recherché, il faut s'adresser à la bonne personne. Pour avoir le changement recherché, il faut s'adresser à la bonne personne. Au verset 19 de notre passage, nous lisons: les hommes de la ville de Jéricho dirent à Élisée: le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise, et dans le pays, c'est la stérilité. Ce qui sous-entend donc que c'est une belle ville, n'est-ce pas? Le séjour de la ville est bon. C'est une belle ville, bien située, mais il n'est pas très agréable d'y vivre, car la source est polluée et l'homme et la terre est stérile. Ces hommes de Jéricho voulaient la transformation de leur ville. Mais avant tout, ils se sont adressés à Élisée. Élisée est le prophète de Dieu qui vient de remplacer Élie, et Élisée est au début de son ministère. Ces hommes ont reconnu en Élisée l'envoyé de Dieu. Et ces gens de Jéricho étaient sans doute saisis par le premier miracle opéré par Élisée en séparant en deux la rivière du Jourdain pour la traverser. Voilà, donc on voit cette histoire dans 2 Rois, chapitre 1. On peut dire alors que Élisée, c'est l'homme de la situation, n'est-ce pas? Élisée est l'homme de cette situation. Mais Élisée est celui qui annonce Jésus-Christ. Il est celui qui annonce le vrai envoyé de Dieu pour apporter une transformation réelle dans la vie de quiconque croit. C'est l'apôtre Paul qui nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Élisée a mis un terme à la malédiction de Josué, mais Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit: maudit soit quiconque est pendu au bois. Galates chapitre 3 verset 13. Élisée a remplacé la malédiction en bénédiction pour la ville de Jéricho. Parce que cette ville qui ne devait être jamais reconstruite est maintenant devenue une ville pourvue d'une source qui reste définitivement pure. Le ministère d'Élisée annonce la grâce divine qui soulage et pardonne, qui donne une nouvelle chance, un nouveau départ, une nouvelle naissance. Mais Jésus-Christ est celui que Dieu a envoyé dans le monde afin que nos péchés soient pardonnés, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père et afin que nous ayons un nouveau départ. Combien de personnes ont envie d'une réelle transformation? Nous y compris. Mais non seulement elle frappe aux mauvaises portes, mais en plus elle s'adresse aux mauvaises personnes. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui vont auprès de ce que la Bible entend par les 10 heures de bonnes aventures pour essayer de connaître leur avenir. Et la parole de Dieu est pourtant très claire là-dessus. Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 11, nous dit ceci: qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. Voilà. D'autres personnes font recours à la philosophie du monde pour chercher un changement dans la vie. Et là aussi, la parole de Dieu est sans équivoque. Colossiens chapitre 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon les traditions des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon le Christ. » Chers amis, la Bible dit que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir, car en Jésus habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Toujours Colossiens chapitre 2 versets 10 et 11. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Que personne ne fasse de nous sa proie par la philosophie du monde. Combien nous sommes constamment envahis par des publicités alléchantes qui nous proposent des changements illusoires, le yoga, les méditations transcendantales et encore d'autres choses. Mais pour la transformation radicale de ta vie, la Bible t'invite aujourd'hui à t'adresser à la bonne personne. Jésus-Christ est la personne de renversement de situation. Il est celui qui est seul capable de transformer le cœur de pierre en cœur de chair. Il est celui qui est seul capable de transformer l'homme pécheur, écrasé sous la malédiction de la loi, en une personne libérée, justifiée, pardonnée et totalement renouvelée par la grâce de Dieu. La ville de Jéricho a été transformée. L'eau polluée est changée en eau pure. L'eau ne produira plus de mort ni de stérilité. Jésus-Christ est celui que Dieu a envoyé sur cette terre pour nous donner l'eau de vie. Voici ce que Jésus dit à propos de cette eau de vie. Quiconque boit de cette eau-là, c'est-à-dire l'eau que le monde nous propose, les choses matérielles, la célébrité, la réussite professionnelle, le bien-être, il n'y a rien de mal en cela, vous êtes d'accord avec moi? Et même si vous n'êtes pas d'accord, c'est quand même la réalité. Jésus dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean chapitre 4, versets 13 à 14. L'eau vive que Jésus-Christ veut nous donner, c'est l'Esprit-Saint. Quiconque vient à Jésus, se repent de ses péchés et lui demande de venir dans sa vie pour être son Seigneur et son Sauveur, recevra le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit commencera alors le travail de transformation dans sa vie et Dieu est juste et fidèle qu'il amènera à la perfection ce qu'il a commencé dans la vie de celui qui place sa confiance en Jésus-Christ. Celui qui reçoit l'eau vive que Jésus lui donnera recevra la vie éternelle. Il passera de la mort à la vie. Sa vie qui a été polluée par le péché sera purifiée par le sang de Jésus-Christ. Il vivra éternellement Et c'est notre frère Josué qui a amené cet encouragement dimanche dernier. Il vivra éternellement car Jésus lui-même qui dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Et la Bible nous dit que quand Jésus-Christ reviendra, amen, alléluia. Est-ce qu'on peut entendre un amen à ça? Jésus-Christ reviendra, Dieu essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Apocalypse chapitre 21, versets 4 à 7. Veux-tu venir à lui ce matin? Veux-tu venir à Jésus ce matin? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il ne jettera point dehors celui qui vient à lui. Jean chapitre 6, verset 37. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est le premier point que nous avons vu pour avoir un changement réel, effectif. Dans notre vie, il faut s'adresser à la bonne personne. Et la bonne personne, c'est Jésus-Christ, celui qui peut renverser toutes les situations. Et le deuxième point, je partage avec vous, c'est que c'est la parole du Dieu vivant qui apporte une réelle transformation. C'est la parole du Dieu vivant qui apporte une réelle transformation. Au verset 21, la deuxième partie de notre passage, nous lisons ceci. Ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini cette eau. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. L'eau fut assainie jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Vous savez, quand Élisée avait entendu la demande de ces gens de Jéricho, il leur demanda d'apporter du sel sur un plat neuf. C'est étrange, non? L'action d'Élisée est marquée par le symbolisme. Mais pour comprendre le sens du geste d'Élisée, il faut d'abord saisir la valeur du sel. En général, le sel est une très bonne chose. Vous êtes toujours d'accord avec moi?
Oui.
Il donne du goût aux aliments et préserve les viandes d'une décomposition trop rapide. Et c'est dans ce sens que Jésus-Christ a utilisé l'image du sel pour illustrer les chrétiens dans le monde. La présence d'un chrétien dans le monde devrait apporter un goût à la vie, préserver la société de la corruption du monde. Voici ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 verset 13. C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. La présence d'un chrétien dans le monde devrait apporter un goût à la vie. Mais on se demande pourquoi le mal semble-t-il avoir le dessus dans notre société? Où se sont passés les chrétiens qui sont censés apporter le changement dans la ville? Où étais-je parti? Ces chrétiens sont censés être le sel de la terre. Ou bien se sont-ils confondus avec les éléments du monde? Et au lieu de préserver la société de la corruption, ce sont eux-mêmes qui sont corrompus. Voilà, donc c'est le bon côté du sel. Mais le sel peut aussi être quelque chose de très nocif. Vous êtes toujours d'accord avec moi? Quand on met trop de sel dans l'aliment, ce dernier devient immangeable, pourrait même causer une maladie. La hausse de tension artérielle, par exemple. Beaucoup se reconnaissent parmi nous aujourd'hui. Comme nous l'avons vu auparavant, Jéricho est situé à 10 kilomètres de la mer morte. Et vous savez quoi? C'est vraiment une mer morte. Car aucune vie ne peut y subsister, car le taux de salinité est tellement élevé que toute forme de vie y est impossible. Mais c'est étrange que Élisée a utilisé le sel pour guérir cette ville qui est déjà saturée en teneur de sel. Vous souvenez-vous que l'action d'Élisée est marquée par le symbolisme? Parce que quelque part dans la Bible, le sel est aussi un signe de l'Alliance. Lévitique chapitre 2, verset 13. « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes en oblation. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de celle de l'Alliance de ton Dieu. Sur toutes tes oblations, tu présenteras du sel. » Dieu veut conclure une alliance avec toi ce matin. Et son alliance pour toi est la vie et la paix. Voici ce que nous lisons dans Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Jérémie 31, verset 31 à 34. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître. » Oracle de l'Éternel, mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. J'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là à son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit » d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. N'est-ce pas merveilleux? Et plus tard, quand Dieu a renouvelé son alliance avec les prêtres et les sacrificateurs, Dieu dit ceci, « Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Je les lui ai donnés pour qu'ils me craignent. Et il a eu pour moi de la crainte et il a tremblé devant mon nom. » Malachie chapitre 2 verset 5. Et toi, présent ici ce matin, veux-tu conclure cette alliance avec Dieu? Sache que du côté de Dieu, tout est déjà accompli, tout est parfait. C'est sur la croix, juste avant de mourir, que Jésus-Christ a crié « Tout est accompli !» Dieu a scellé avec le sang de Jésus-Christ versé à la croix la nouvelle alliance qu'il veut conclure avec chacun de nous. Il ne reste que de notre côté. À nous maintenant de dire, je veux conclure cette alliance avec toi, éternel Dieu. Je veux que tu sois mon Dieu. On a chanté tout à l'heure, je n'aurai plus d'autre Dieu. Tout à l'heure, en chantant, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je suis d'accord avec ce que je sente? Ce sont des paroles fortes, des paroles d'engagement, d'alliance. Et nous continuons en disant, Dieu, j'ai besoin de toi. Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ton salut. Le plan 9 qui est utilisé là peut également désigner l'instrument que Dieu utilise. C'est son serviteur Élisée. Et dans 2 Timothée chapitre 2 verset 20, nous lisons ceci, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. » C'est comme si Élisée voulait rappeler aux gens de Jéricho que l'Éternel a conclu une alliance avec leurs ancêtres. Et Dieu veut que ces personnes continuent à garder cette alliance. Par ce geste, Élisée veut aussi montrer aux habitants de Jéricho que Dieu utilise son serviteur pour leur transmettre un message. Mais Élisée n'est qu'un instrument dans les mains de Dieu, mais c'est l'Éternel qui est le seul capable de renverser cette situation, de transformer l'eau maudite en une source de bénédiction. Car finalement, ce n'est pas le sel ni le plat qui a amené cette transformation dans la ville de Jéricho, mais c'est bien la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini cette eau, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. L'eau fut assainie jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Oh, combien nous avons le désir, nous voulons avoir une vie, une famille, une société transformée. Mais quelle place accordons-nous à la parole de Dieu dans notre cœur, dans notre famille, dans notre société? Laisserions-nous toucher, enseigner, convaincre, redresser, éduquer par la parole du Dieu vivant? Et vous savez quoi? Le renversement de situation peut être aussi dans le sens négatif du terme. Parce que c'est par la violation de la parole de Dieu que la mort est entrée dans le monde. C'est l'apôtre Paul qui dit, c'est pourquoi de même par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, car tous ont péché. Romains chapitre 5 verset 12. C'est très bien que Rinda a mentionné tout à l'heure le jardin d'Éden. À la création, quand Dieu a vu que tout ce qu'il a créé, quand il a vu tout ça, il s'est écrié en disant, tout est très bon, tout est très bon. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Juste pour rappel, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme et l'homme a négligé, méprisé et même violé la parole du Créateur du ciel et de la terre. Et à partir de ce moment, tout a été chamboulé. La vie et la paix qui régnaient auparavant est devenue le chaos et la mort. La relation harmonieuse entre le Dieu trois fois saint, le Dieu d'amour et miséricorde, était brisée par le péché. Et c'est ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui. Partout dans le monde, c'est le péché qui entrave notre relation avec Dieu. Et le péché, c'est aussi le fait de négliger, de mépriser et de violer la parole de Dieu. Et c'est ce qui apporte le chaos et la mort dans le monde. Combien d'entre nous consacrons encore plus de temps à écouter le mensonge de l'ennemi qu'à la parole de Dieu? Combien d'entre nous préférons encore la parole de sagesse selon le monde que celle qui vient d'en haut? La parole du Dieu vivant, l'apôtre Paul nous invite tous ce matin, que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Colossiens chapitre 3 verset 16 et 17. C'est pour restaurer notre relation avec Dieu tellement harmonieuse, tellement belle à la création que Jésus-Christ est venu. Jésus est la parole du Dieu incarné. Il est la parole, le Logos qui est devenu chair, qui a habité parmi nous. Jean chapitre 1 verset 14. Et si nous recevons cette parole dans notre vie, si nous la laissons pénétrer au plus profond de nous-mêmes, elle nous donnera le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. Et c'est cette parole de Dieu, Jésus-Christ qui est le chef, capable de changer nos deuils en allégresse, la mort par la vie, la malédiction par la bénédiction. Quelle place accordons-nous à la parole de Dieu quand nous sommes éprouvés par la corruption qui sévit dans notre société? La parole de Dieu ne change pas seulement le cœur, mais aussi la pensée, le mode de vie, la manière comment nous parlons, la manière comment nous jasichons, la manière comment nous dépensons notre argent. Quelle place accordons-nous à la parole du Dieu vivant quand nous sommes confrontés à différentes propositions qui viennent du monde, alors que beaucoup de ces propositions, aussi légitimes soient-elles, pourraient nous égarer de Dieu? Veux-tu avoir une vie transformée ce matin? Je voudrais te lancer un défi. Prends le temps de t'arrêter un instant. Ouvre ta Bible. Demande à Dieu de te révéler sa parole. Ensuite, que tu cultives en toi l'habitude de lire régulièrement, la méditer et la garder dans ton cœur. Qu'à chaque fois que tu lis cette Bible, cette parole de Dieu, que tu aies un cœur réceptif, une attitude intérieure d'humilité devant cette parole vivante et efficace du Dieu vivant. Et que Dieu te bénisse dans cela. Excuse-moi, Josué. Mais un jour, moi aussi, alors que je courais après ce que j'entendais par bonheur, je tergiversais ici et là, un jour je me suis arrêté, ou plus exactement, c'est Dieu qui m'a demandé de m'arrêter. Et je me suis placé devant cette parole du Créateur du ciel et de la terre, celui qui ne sait ni ne peut mentir. Et j'ai entendu ceci, c'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont je suis moi le premier. 1 Timothée chapitre 1, verset 15. Cette parole est valable pour tout être humain. Encore faut-il la saisir, la croire et la garder dans nos cœurs. Et gloire soit rendue à Dieu, car ce jour-là, j'ai reçu dans mon cœur cette parole de Dieu. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Maître. J'ai reçu Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu, et je l'ai accepté comme mon Sauveur personnel. À partir de ce jour, ma vie a été radicalement transformée. De l'homme rebelle, je suis devenu un enfant de Dieu. De l'homme esclave du péché, je suis devenu un homme libre et aimé de Dieu. Pour conclure, la ville de Jéricho a été transformée car ses habitants se sont adressés à Élisée, le prophète de Dieu. La transformation ne venait pas du serviteur de Dieu lui-même, mais de la parole de l'Éternel. Nous pouvons voir la transformation de Madagascar quand chaque malgache s'adresse à la bonne personne, Jésus-Christ, le Dieu de renversement de situation. Quand chaque malgache abandonne de s'adresser aux esprits de mort pour chercher la bénédiction, mais qu'il s'adresse à Jésus-Christ, celui qui est vivant éternellement, celui qui a vaincu le péché, le monde et la mort. Nous pouvons voir la transformation de notre propre vie, de notre Église, de notre nation, quand chaque individu accorde à la parole de Dieu la place de l'autorité suprême dans sa vie. Nous pouvons voir la transformation réelle et durable dans notre vie quand nous devenons des hommes et des femmes de la parole de Dieu, quand nous nous appliquons à la lecture régulière, à la méditation et à la mise en pratique de la parole de Dieu, bien entendu avec l'aide du Saint-Esprit. Du plus petit au plus grand, du simple citoyen au président de la République, du plus pauvre des plus pauvres au plus riche, que chaque cœur fléchisse devant la parole efficace du seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible. À Dieu seul soit la gloire. Amen.